Salut à tous, salut à toutes. Vous êtes sur RTF 95,4 MHz et vous écoutez Les Barricades Mystérieuses, une émission consacrée à la musique classique et à la littérature. Eh bien, cette fois, en musique classique, bah, c'est du classique classique. C'est du Mozart, c'est du Dowland, et puis un peu de post-classique, c'est-à-dire que vous avez tous entendu parler, je suppose, de Philip Glass, très, très célèbre parmi les musiciens contemporains. Ben, on en écoutera un petit bout pour voir ce qu'il faut en penser ou ce que l'on peut en penser. Voilà, et puis alors deux livres que j'ai trouvé intéressants l'un et l'autre. Partout les autres de David Thomas, ce n'est pas son dernier livre, c'est son avant-dernier livre. Et puis de Patrick Deville, Viva, très intéressant roman vérité sur le Mexique, sur Malcolm Lowry et sur Léon Trotsky, qui, comme tout le monde le sait, est allé se réfugier à Mexico où il a été assassiné par un adversaire politique. Voilà. Alors, pour commencer, je vous propose d'écouter, je vous ai dit classique, alors c'est classique, classique, le premier mouvement Allegro d'un concerto pour piano, numéro 9, Köchel 271, en mi bémol majeur, sous-titré Le jeune homme. Alors, la particularité de cet enregistrement, c'est qu'il s'agit d'un pianoforte. Alors, il ne date pas de l'époque de Mozart, hein. Il n'y en a plus de cette époque, en tout cas, il n'y en a plus qui puisse être joué, mais c'est un pianoforte qui a été construit sur des plans de Anton Walter, qui était un contemporain de Mozart. Alors, voilà, je ne sais pas ce que vous allez en penser. On peut trouver que c'est beaucoup une bien meilleure interprétation quand on a un beau Steinway de concert. Ça peut arriver que ça fasse un peu boîte à punaise, mais ça a l'avantage d'être authentique. Alors, c'est l'interprétation de Patrick Cohen et de l'ensemble baroque de Limoges sous la direction de Christophe Coin. Thank you.
Thank you.
Voilà, vous avez entendu le premier mouvement de ce concerto numéro 9 en mi bémol majeur, Le Jeune Homme. Concerto très connu, l'interprétation peut-être moins, donc au piano forte Patrick Cohen, et puis l'ensemble baroque de Limoges sous la direction de Christophe Coin. C'est un enregistrement qui n'est pas tout récent, mais qui, je trouve, garde ses qualités, en tout cas d'originalité. Autre musicien, pas trop connu, mais un peu quand même. Alors, je ne veux pas dire que Mozart n'est pas trop connu, mais je veux dire dans ce genre d'interprétation. Alors, nous avions reçu à Limoges, voici quelque temps, un très bon claveciniste et chef d'orchestre qui s'appelle Skip Sempé, rien à voir avec le dessinateur, et donc qui avait donné plusieurs concerts et qui avait enregistré un CD sur, entre autres, on peut écouter une mélodie de John Dowland, John Dowland, un musicien anglais du XVIe siècle, voilà, donc interprété par Skip Sempé et le groupe Capriccio Stravagante.
Thank you.
Voilà cette Padawan de John Dowland, interprétée par Skip Sampé et l'ensemble Capriccio Stravaganze. Alors, premier livre, un livre de David Thomas. Alors, David Thomas, c'est l'auteur d'un certain nombre de livres déjà, et je suis à peu près certain d'avoir chroniqué plusieurs de ses livres sur cette même antenne. En particulier, je me rappelle La patience des buffles sous la pluie, joli titre, et puis aussi Seul entouré de chiens qui mordent, joli titre aussi, même si ça n'évoque pas. Et puis un autre livre qui s'appelle Je n'ai pas fini de regarder le monde. Alors, juste rubrique concierge, David Thomas est le compagnon de Charlotte Lipinska, qui est journaliste à Vogue et qui est chroniqueuse au Masque et la Plume. Voilà. Alors, ça n'empêche pas que ce sont de bons livres et qui ont un format tout à fait inhabituel. Alors, c'est pas un recueil de nouvelles, mais ce sont plusieurs textes courts, voire très courts, et d'autres un peu plus développés, très variés, très surprenants et assez agréables à lire. Alors, juste un exemple. Mon chiffre, c'est le 7. Je suis né le 7 juillet 1977. Je ne suis jamais resté plus de 7 ans avec un homme. Depuis que j'ai quitté mon mari il y a 7 ans, j'ai eu 6 aventures dont la plus courte a duré 7 jours et la plus longue 7 mois, etc. etc. Et donc, et alors, s'il se passe quelque chose... Oui, je vis au 7 rue de Bellechasse, dans le 7e arrondissement. S'il se passe quelque chose entre lui et moi, il sera mon 7e amant en 7 ans. Il se passera quelque chose entre lui et moi, c'est évident, et nous resterons 7 ans ensemble. Je ne l'ai jamais vu, mais je le sais. Voilà, ce sont des textes comme ça, un peu humoristiques, un peu étonnants, des textes courts, donc agréables à lire, parce que ça se lit par petits morceaux. Le genre de choses qu'on lit, par exemple, avant de s'endormir. Voilà, on lit quelques pages de ce recueil, par tous les autres, de David Thomas. Alors, j'en profite pour signaler que depuis, David Thomas a écrit un livre plus récent, qui est un livre plus personnel et dans lequel il raconte tout le malheur et la difficulté qu'il y a de vivre avec un frère schizophrène décédé depuis, mais très gravement atteint. Voilà, c'est pas une chose très gaie, mais j'ai entendu dire du bien de ce dernier livre. Donc, David Thomas, par tous les autres, c'est aux éditions de l'Olivier. Alors, nous poursuivons avec un musicien assez connu, mais je crois que je n'ai jamais diffusé de ses œuvres sur RTF. Il n'est jamais trop tard pour commencer. C'est l'ouverture des Joyeuses Commères de Windsor de Otto Nicolai. C'est un opéra qui est inspiré par la pièce de Shakespeare. Voilà, les Joyeuses Commères de Windsor de Otto Nicolai.
Thank you.
Voilà, eh bien, c'était l'ouverture des Joyeuses Commères de Windsor de Otto Nicolai. Alors, une curiosité maintenant. Déjà, tout à l'heure, le pianoforte d'époque, c'était déjà une curiosité, mais là, c'est une vraie curiosité étonnante. Je vous propose d'écouter deux pièces de Haydn qui ont été écrites pour lyre organisée. Alors, qu'est-ce que c'est que la lyre organisée ? Eh bien, tout le monde sait ce qu'est une vielle à roue. Vous voyez, c'est une roue qu'on tourne avec une manivelle. Et cette roue, on a collé dessus des crins de cheval. Et on met de la colophane pour que ça frotte une corde, laquelle est, on appuie dessus avec un petit clavier. Avec la main gauche, on tourne la main droite. Et ça change les notes. Et puis, il y a aussi un bourdon, donc c'est une autre corde à laquelle on ne touche pas et qui fait toujours le même son. Ça va ? Tout le monde suit ? Bon, alors je continue. C'est déjà assez compliqué, mais tous les groupes de folklore que l'on voit en Limousin, par exemple, ont des vielles à roue. Alors, Haydn, qui était un... qui aimait beaucoup fabriquer de nouveaux instruments, tenter des essais, etc. Alors, il avait... peut-être pas inventé, mais en tout cas essayer de populariser le baryton à cordes, un instrument très étonnant qui ressemble un peu à un violoncelle ou à une viole de gambe. Et alors, on appuie sur les cordes avec un archet pour jouer, mais il y a derrière des cordes dites sympathiques qui vibrent avec les autres en sympathie pour amplifier le son. Alors, il y a un baryton à cordes de Joseph Haydn qui se trouve à Vienne au Kunsthistorisches Museum, et le prince Esterhazy, qui était en quelque sorte le patron de Haydn, en avait un aussi, et on lui a composé des pièces. Alors là, c'est encore mieux, parce que la lyre organisée, c'est alors vielle à roue, mais en même temps que vous tournez la manivelle, ça envoie de l'air dans des tuyaux comme les tuyaux d'orgue. Donc c'est à la fois une sorte d'orgue positif et une vielle à roue. Et c'est vrai que cet instrument ressemble furieusement aux instruments inventés par Gaston Lagaffe dans les bandes dessinées de Franquin, où on se demande où il va chercher tout ça. Toujours est-il que donc Haydn a écrit des pièces pour lyre organisée. Je vous propose de les écouter. Thank you. C'était deux pièces pour lyre organisé, interprétées par l'ensemble baroque de Limoges sous la direction de Christophe Coin. Oui, c'est plus curieux que beau. Il faut se rappeler que en Hongrie, au XVIIIe siècle, surtout quand on était dans l'énorme domaine de Esterházy, qui se visite toujours, qui était le domaine des princes Esterházy, qui avait une fortune immense et qui était également qui protégeait les arts, les musiciens, etc. Et en fait, je pense qu'on s'embêtait beaucoup. Pas de télévision, peu d'activités théâtrales ou récréatives. Alors, on imaginait des instruments de musique nouveaux et on composait des pièces pour eux. Voilà, c'était une curiosité. Vous n'en entendrez pas ailleurs, ça. Bien, deuxième livre de cette émission, un livre de Patrick Deville qui s'intitule « Viva ». Viva, donc, et c'est sous-titré « Roman ». Alors, c'est un genre littéraire assez nouveau, assez intéressant et très typique de Patrick Deville. J'ai parlé déjà, et j'espère que vous l'avez lu, d'un livre qui s'appelle « La peste et le choléra » et qui raconte la découverte du bacille trapu qui est le bacille de la peste, qui est le Bacillum Yersini, par Alexandre Yersin, et comment il a réussi à découvrir, à faire un vaccin contre la peste, etc. Alors, ce livre, Viva, c'est un livre sur le Mexique, sur Mexico. C'est une sorte de biographie romancée. Alors, biographie, parce que tout est extrêmement exact et précis. Patrick Deville, on voit bien que c'est un homme d'archives, on voit bien qu'il a cherché partout des précisions, des dates, des noms propres, etc. Et que ce qu'il raconte est imaginaire, mais reposant sur une réalité extrêmement précise et très documentée. Alors, Mexico... c'est là qu'ont vécu un moment Malcolm Lowry et Léon Trotsky et bien d'autres. Et c'est pour Patrick Deville l'occasion de raconter une espèce de biographie de Léon Trotsky. Léon Trotsky, compagnon de Lénine pour la Révolution russe et qui très vite s'est trouvé en opposition avec Staline. Et Staline ne rigolait pas avec ses ennemis, avec ses amis non plus d'ailleurs. Et donc Trotsky a été obligé de s'enfuir à travers toute l'Europe. Alors c'est extraordinaire parce que Patrick Deville a reconstitué le parcours de Trotsky qui a habité un moment en France, alors à Paris, mais aussi bizarrement à Saint-Palais, près de Royan, où il est resté quelque temps, toujours poursuivi par les tueurs de Staline. Et puis il a atterri à Mexico, où il est devenu pour quelque temps l'amant de Frida Kahlo, la femme peintre très célèbre, avant d'être assassiné à Mexico par un dénommé Ramón Mercader, qui était un assassin payé par les adversaires politiques, c'est-à-dire par les staliniens, qui poursuivaient Trotsky. Et alors, tout le monde connaît l'histoire, mais Patrick Deville ne s'étend pas beaucoup dessus. Trotsky a été assassiné avec un pic à glace, acheté par Ramón Mercader quelques jours avant, et dont il avait couper le manche pour que ça soit plus facile à le prendre. Alors, il fait quand même remarquer qu'il est tout à fait étonnant que Trotsky, qui se savait poursuivi par les sbires de Staline et qui faisait fouiller et arrêter tous les visiteurs, ait laissé entrer ce Ramón Mercader qui finalement l'a assassiné d'une manière horrible. Trotsky a mis deux ou trois jours à mourir avec un trou de 7 cm, paraît-il, dans la tête. Voilà. Mais il n'y a pas que Trotsky. Il y a aussi Malcolm Lowry. Alors Malcolm Lowry, c'est l'auteur de Au-dessous du volcan. Alors il y a deux titres, il y a deux traductions. Il y a Au-dessous du volcan et puis une autre qui est plus récente qui s'appelle Sous le volcan. livre difficile à lire, mais un livre légendaire, un grand livre, où il est question d'un consul alcoolique qui est à Mexico. Enfin bref, voilà, si vous voulez en savoir plus, lisez plutôt la deuxième traduction Sous le volcan, qui me semble plus accessible que la première, où on ne comprend pas grand-chose, il faut bien l'avouer, en tout cas pour le début. Mais Malcolm Lowry a vraiment eu une existence réelle. Il est vraiment allé à Mexico, où se déroule la plus grande partie de « Sous le volcan ». Voilà. Et donc, lui aussi a vécu une espèce de vie errante, qui était à Mexico, mais ailleurs. Et lui était fils d'un très, très riche Anglais qui, toute sa vie, donc a été entretenu. Alors, son père lui a envoyé de l'argent tous les mois, mais jusqu'à la quarantaine. Et en fait, il est mort assez jeune, d'alcoolisme totalement... totalement imbibé de tequila et autres boissons alcoolisées. Voilà, un bon livre qui se lit avec plaisir, c'est « Viva » de Patrick Deville. C'est aux éditions du Seuil, dans la collection « Fiction et compagnie ». Alors, je vous ai dit que ça serait un petit peu hors du commun. Là aussi, c'est hors du commun. Donc, un extrait d'un opéra qui s'appelle « Einstein on the Beach ». Un opéra, la musique est de Phil Glass. Et l'histoire est très difficile à raconter, puisque c'est en fait cinq tableaux, tableaux théâtraux et musicaux, et qui portent chacun sur des choses aussi accessibles et faciles que la théorie de la relativité, la naissance de l'univers, etc. etc. C'est quand même un... Phil Glass est un musicien de très grand talent et c'est une des grandes figures de la musique classique contemporaine. En France, malheureusement étouffée par l'intervention et la force de Pierre Boulez qui a étouffé la musique classique contemporaine, qui commence à peine à s'en relever. Et je vous propose d'écouter donc un extrait de Einstein on the Beach, musique de Phil Glass. Alors l'instrumentarium, c'est assez bizarre. Il y a une flûte doublée par un piccolo et une clarinette basse, etc. Je vous laisse découvrir ça tout seul. Et puis, nous verrons bien la semaine prochaine dans quel état vous en sortirez. Voilà, bon, c'en est peut-être assez. Il y en avait normalement pour près de 20 minutes. C'est de la musique répétitive. Alors, il faut relier ça avec la scène, avec la scénographie, avec l'époque aussi. Hein. Ce sont des œuvres qui datent des années 70 et on a un petit peu changé. Voilà, j'essaierai de vous trouver d'autres œuvres de Philip Glass. Il y en a qui sont quand même plus accessible. Bon, et puis, ben pour se dire au revoir, quelques pièces d'un ensemble alors, qui s'appelle Les Folies de Cardenio de Michel Richard de Lalande. On est au XVIIIe siècle, je n'ai pas retenu la date exacte, mais c'est, voilà, 1720, donc ça a été donné le 30 décembre 1720. Et alors, quantité de pièces dansées, avec des menuets, etc. Et je vous propose d'écouter donc une marche pour les masques, et puis ensuite des bourrées. Je vous jure que c'est vrai. Ça s'appelle Bourrée pour les morts. Bourrée, E-E-S. Donc c'est la danse qu'il s'agit. Bien, interprété par l'ensemble baroque de Limoges, sous la direction de Christophe Coin. Voilà, c'est sur ces danses tirées des Folies de Cardenio de Michel Richard de Lalande que je vous dis au revoir et à la semaine prochaine sur RTF 95,4 MHz ou sur le DAB ou etc. etc. etc.